Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
La dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, avec Cédric Emmons, Christophe Cessieux et Jérôme Pinault. Dans quelques instants, on va ouvrir la porte du vestiaire. Comment gérer la perte de confiance? On va aussi dans le buzzer se demander si un amateur peut battre un pro. Tiens, il s'est passé deux trois trucs sur la planète tennis encore, notamment l'Open d'Australie où on prépare des événements qui vont faire beaucoup parler, je le pense. Mais d'abord, Florent Serra et Eric Salio sont avec nous pour la finale du Masters 1000 de Shanghai, le français Arthur Hinderknecht face à son cousin monégasque Valentin Vacherot. C'est bien parti pour notre français pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, il domine Arthur Hinderknecht. 4 jeux à 2 pour le 54e mondial et 40 as sur la mise en jeu de Valentin Vacherot qui, ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans une forme optimale. Peut-être que c'est la pression de cette finale. C'est vrai qu'il sort des qualifs, il a beaucoup de mal dans les jambes. Peut-être que c'est le fait de jouer aussi son cousin, Flo. Mais en tout cas, il est mené 4-2.
Il est un petit peu plus tendu. On l'a vu sur le jeu. Surtout, il se fait breaker. Il rate un smash. Le bras part pas aussi bien que d'habitude. Après, il avait remporté toutes les mises en jeu plutôt tranquillement. Mais à part ce break où il se trouve. Mais là, sur celle-ci, il avait largement le jeu à sa portée, puis s'est fait rejoindre à 40 ans. Mais Arthur, lui, c'est plutôt le niveau de jeu d'Arthur que j'essaie d'observer, parce que lui, il lâche ses coups et on le voit plutôt toujours serrer le poing, vraiment avec un regard, en faisant abstraction de justement de son cousin, plutôt un regard déterminé et surtout un très très bon niveau de jeu. Et c'est bien qu'il arrive à se lâcher comme il fait. Donc pour l'instant, c'est plutôt logiquement qu'il mène au score et qu'il a ce break d'avance.
On est en finale à Masters 1000. On en combien de 7 gagnants hein, pour nos auditeurs, Eric? Faut le rappeler quand même.
2-7.
Voilà, bien sûr.
Ça fait longtemps maintenant. Ils ont arraché ça en 2005-2006.
Mais non, mais c'est important de le rappeler parce que peut-être certains se disent on est parti sur un match marathon. Non,
souvenez-vous, les finales de Masters 1000 se faisaient en 5-7.
Et voilà. Merci de me dire que j'ai raison. Ça me met en confiance pour la dernière
fois. Arrêté il y a 20 ans.
On a commencé le débat sur la confiance.
Non, mais, et voilà, bien oh sûr, Cédric, il a compris qu'on allait ouvrir la porte du vestiaire pour parler de confiance tout de suite.
RMC, le vestiaire des GG.
On continue de suivre cette finale, évidemment, en fil rouge. Les amis, ce qui a attiré mon attention cette semaine, c'est donc Warren Zaïre-Emery, rétrogradé des A, où il était depuis 2 ans avec les Bleus, aux Espoirs, avec l'équipe de France. Donc cette semaine, à 19 ans, le Parisien connaît ses premiers mois difficiles en club, le PSG, et les premières critiques aussi sur son niveau. Écoutez-le, il a analysé sa situation avec beaucoup de maturité cette semaine en conférence de presse.
C'est moi tout seul qui me bride parce que je sais que j'en ai les capacités. Je pense que la confiance aussi joue un petit peu. Peut-être après la blessure, d'un coup, je jouais un peu moins, j'avais moins de temps de jeu. Et je devais peut-être montrer à l'entraînement un peu plus. C'est à moi de me libérer, de jouer comme je sais faire avec cette insouciance de quand j'étais jeune. Et ça va revenir naturellement.
Retrouver l'insouciance que quand il était jeune, il a également confié qu'il lui arrivait régulièrement de revoir. C'était pas très français ce que j'ai dit.
Non, mais c'est surtout que quand il était jeune.
Oui, c'est vrai, alors qu'il est toujours jeune, ouais, t'as raison.
19 ans.
Il a 19 ans. Mais il confie revoir parfois des vidéos de ses meilleures actions quand il était à son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain pour pouvoir peut-être s'inspirer pour retrouver son meilleur niveau. À travers vos expériences, les GG, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. Comment gérer la perte de confiance? Pascal Duprat, à la fois joueur et entraîneur, ouais, tu connais un peu tout l'environnement, ouais, c'est important.
Oui, hein. Ouais, très important. En fait, ce que j'ai fait en tant qu'entraîneur, je l'ai calqué aussi, j'ai puisé cette inspiration chez mes coachs, parce que certains étaient très sensibles à être très attentifs quand un joueur perdait sa place ou quand un joueur était blessé. Ça m'est arrivé par exemple, j'avais souvent des problèmes musculaires. Je me souviens quand je suis arrivé à Toulon, qui jouait en D1 à l'époque sous les ordres de Roland Courbis, je démarre très bien, voilà, je joue tout le temps, et puis malheureusement je me blesse une première fois à la cuisse, puis je rechute, et à partir de là, eh bien tu perds confiance, parce que j'ai perdu confiance en mon corps, et là ça a été difficile. Et très franchement, sans l'aide de Roland, mais aussi de son adjoint, je me rappelle de Delionis qui était l'adjoint de Roland.
Bien sûr.
Et Delio qui ne conduisait pas. Souvent, il m'arrivait de l'amener à l'entraînement, et rien que le fait qu'il me parle, rien que le fait qu'il me rassure, Eh bien, ça m'a fait du bien d'aller chercher chez un autre cette possible, comment dire, remise en confiance, ou en tout cas de se persuader que, ben, que la blessure serait qu'un mauvais souvenir et que j'allais revenir. Donc tout ceci, eh bien, je m'en suis inspiré ensuite quand je suis devenu entraîneur. Vous pouvez pas savoir, et bon, il y a des sportifs là. Quand vous êtes responsable de tout un groupe, il faut faire attention à tout.
Mais oui.
Si vous avez un joueur qui est blessé, qui est tout le temps à l'infirmerie, et vous, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes pris dans la machine à laver, vous êtes à l'entraînement, puis en conf, puis les matchs à préparer, il faut toujours avoir un soin particulier pour les joueurs blessés, parce que votre message, ne serait-ce que votre regard, eh bien, il va lui faire de, le plus grand bien pour son, son retour.
Je suis d'accord avec toi, joueur-là. Pascal, pour l'avoir vécu, quand tu es blessé, que le coach part, fait sa causerie, et que à l'époque c'était le cas au Stade Toulousain, les joueurs passaient par l'infirmerie pour aller s'entraîner, et toi t'es sur la table de massage ou de rééducation, et que le coach prend la porte et te regarde même pas, ou te fait pas un petit signe de la main, c'est ce qu'il y a de pire, la non-attention à ce moment-là, qui n'est pas volontaire, parce que l'entraîneur il est dans la machine à laver, et ben, elle est horrible. Et là tu sais, pas de la perte de confiance, c'est que tu t'enfonces là carrément. Ça va loin,
ça va
très loin, parce que t'as beau essayer de te dire, bon, il pense pas à moi, mais il y a 3 mois avant ou 2 mois avant, il comptait sur moi, il mettait mon nom en premier pour faire la compo d'équipe, et du jour au lendemain, je suis passé de la lumière à l'ombre, même plus rien, parce que le joueur qui vit ça, il vit plus rien, il est au fond de tout.
Et que dire quand tu fais un sport où t'es pas blessé et que ton manager choisit de courir à une division au-dessus parce qu'il fait venir des grands partenaires, que toi t'étais la petite star de ton équipe dans la division inférieure, et que d'un coup il attend de toi des tels résultats qu'il te fait la gueule, et quand t'es à la maison, puisqu'il n'y a pas de centre d'entraînement dans le cyclisme, t'as plus de nouvelles. Moi je l'ai vécu,
ouais.
Évidemment que la perte de confiance elle est terrible quand t'as 25 piges et que ton manager te regarde même plus et n'en voit que par celui qui a brillé l'année d'avant, c'est très très compliqué à vivre. Et dans ces cas-là, moi, le seul outil que j'ai trouvé à l'époque, c'est d'aller chercher des aides extérieures, retrouver la confiance soi-même.
C'est quoi les aides extérieures? C'est un psy,
préparation mentale, regarder les vidéos de quand j'étais bon.
Ah, évidemment,
c'est l'outil que te propose le préparateur mental en premier.
Mais qu'est-ce que tu cherchais?
C'est l'imagerie mentale positive.
Bah, de me rappeler qui j'étais et de pas vivre en fonction du regard de mon patron, mais plutôt de qui j'étais.
Tu comparais quoi alors? Tu regardais,
je me regardais gagner des courses, je me regardais gagner des courses, je me regardais
gagner des sensations. Et plus tu rentres dans cette phase là du moins, je vais faire une phrase bateau, mais tu n'es le reflet que de ce que tu renvoies, du moins t'es un miroir en face de toi. Si j'envoie peu de confiance, on va avoir peu confiance en moi. Guinovès, il me disait, Cédric, je te fais rentrer, mais je sais que tu peux me faire gagner, même faire perdre. Moi j'ai besoin d'avoir de la confiance. Donne-moi confiance en toi. Et quand t'es blessé, en plus de ça, là on parle blessure, tu peux rien faire, tu peux pas interagir là-dessus. Et quand tu es valide et qu'on te choisit quelqu'un, eh ben il faut repartir de la base.
Pour le coup, Cédric, je suis pas d'accord avec toi dans le fait de pour jouer toi sur le terrain, mais nous c'est pour être sélectionné pour les grandes compétitions, genre Tour de France. Bah, tu n'as plus personne d'autre dans ce milieu-là, t'as plus personne d'autre que toi-même pour aller te relancer. Ouais. Et les gens que tu vas choisir toi. Moi, j'ai jamais attendu que mon manager général me redonne confiance.
Oui, mais cela dit, dans nos sports collectifs, pardon de vous couper, mais le manager et son staff ont aussi pour devoir d'être à l'écoute des joueurs qui sont, pour telle ou telle raison, sortis du groupe momentanément parce que c'est des choix de l'entraîneur ou parce qu'ils sont blessés. Il faut l'accompagnement du staff pour que les joueurs retrouvent confiance, parce que un sportif de haut niveau, il se doit d'avoir une haute estime de lui. C'est important d'avoir de l'estime de soi.
Il faut expliquer les choix, même si des fois c'est inexplicable, il faut dire quelque chose, il faut aller voir.
En tout cas, certains ont du mal à ce qu'on leur explique les choix, mais personnellement, j'ai toujours pris le parti d'expliquer les choix aux joueurs que je ne sélectionnais pas, ou aux joueurs que je ne prenais pas dans le groupe pour une période déterminée ou pour un match particulier. Voilà. Si le joueur ne venait pas à moi, souvent, j'allais le chercher pour lui parler, le recevoir dans mon bureau et de lui expliquer pourquoi je ne faisais pas jouer. Alors, il n'était pas convaincu par mes arguments, et ça, c'est normal.
Mais Pascal, parce qu'ils sont tous compétiteurs. Mais tu n'es pas prêt à accepter ce qu'on va te dire.
Mais au moins, j'avais l'impression de l'avoir considéré. Voilà, c'était l'important pour moi.
Dans le vestiaire des grandes gueules du sport, comment gérer la perte de confiance? C'est intéressant parce qu'on a un peu tout là, hein, des sports individuels, des sports collectifs. Tiens, on a Flo Serra qui est avec nous pour la finale du tennis. On profite de ta présence aussi. Ça te parle là, tout ce qu'on est en train d'évoquer, comment on gère la perte de confiance? Au tennis, en plus, vous êtes seul, on souvent, avec un entraîneur peut-être parfois. Comment
individuel, t'as l'équipe.
Le tennis, c'est... je pense que je sais pas, j'ai pas pratiqué à haut niveau, mais c'est tellement dans la tête que ça se passe.
Beaucoup. Et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même.
Mais c'est vrai qu'après, comme on dit, tout le monde sait jouer au tennis. T'as le physique. Quand t'as déjà énormément confiance en ton physique, ça te renforce. Quand tu sais que tu peux jouer passer 5 heures sur le terrain. Déjà, t'as une belle confiance en toi. Mais c'est vrai qu'en sport individuel, t'as des passages. Arthur, pour faire le parallèle au match, l'a vécu aussi au tournoi de Rome. Il a une perte d'envie, il est en déprime. Mais t'as des périodes où ça va pas. T'arrives pas à reproduire. Reproduire, c'est essayer de forcer ce que tu faisais de bien avant. Ce que tu faisais naturellement. Et quand tu n'y arrives pas, t'as beau essayer, parfois ça passe pas. Et comme vous disiez très justement, bon, t'as le moyen du préparateur mental. Regarder la vidéo, tu te dis tiens, comment je me déplaçais, qu'est-ce que je faisais de bien, qu'est-ce que je faisais de bien à ce moment-là quand je gagnais des matchs.
Ça
prend du temps, mais bon, pour essayer de sortir.
Ça prend combien de temps
quand tu es tout seul dans ton lit, que tu réfléchis, ça prend du temps parce que l'énergie.
Retourne dans le lit.
Depuis 2006, j'ai toujours tout écrit.
Puis parfois,
pas
des
se reproduisent.
C'est ça.
J'ai toujours écrit mes entraînements, ce que j'ai bouffé, où je dormais, comment j'ai fait pour me rassurer quelque part dès que tu perdais tes repères. Non, et puis parfois, tu vois, tu parlais de la nuit, mais tu tardes à t'endormir. Parfois, tu as des idées qui deviennent la nuit. Tu dis tiens, demain, je vais retourner sur le terrain. Je vais essayer ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Tu vois, mais t'as essayé d'une remise en question permanente. Alors nous, on a la chance d'avoir des tournois toutes les semaines presque, si tu veux. Si
comme les rugbyman, des matchs tous les week-ends.
Donc bon,
on joue tous les week-ends aussi.
Tu peux chaque semaine te dire allez, je me refais la semaine d'après.
Mais l'histoire de la vidéo, elle est hyper importante parce que à des moments quand tu doutes, c'est bien de voir ce que tu as fait, ce que tu étais capable de faire pour te remettre en confiance.
Mais est-ce que il peut pas y aussi avoir le côté inverse de je ne suis plus capable de faire ça, je ne me reconnais pas quand je vois la vidéo.
Moment. Non, mais quand tu n'es plus capable, il y a deux raisons, c'est soit psychologique, soit physique. C'est physique, tu le sais.
Bon, tu le sais.
Tu es sportif, tu sais qu'à ce moment-là. Mais le jour où tu n'arrives pas à réaliser ton jeu au pied, tes passes, tes courses, et que ton physique est bon, ben, tu sais que c'est que psychologique. Donc il faut se remettre dans une dimension de win-win, de gagner. Et ça, c'est marche. Ouais, je vais dire un truc classique, marche après marche.
C'est souvent très important de se réfugier dans le travail aussi.
Ouais. Toi, c'est ce que
quand
tu faisais beaucoup, Pascal.
Perte de confiance, ouais.
Parce que comme coach, on perd confiance aussi. Quand on perd 1, 2, 3 matchs, on est critiqué aussi. Les médias,
on peut en parler. Ça, c'est parce qu'on se soucie pas souvent des coachs et de leur psyché. On en a à foutre en fait. On s'en prend plein la gueule tout le temps et on a l'impression qu'on est costaud et qu'on n'a pas des doutes. Mais en fait, le plus difficile en tant que coach, c'est quand tu doutes de pas le montrer aux personnes qui sont autour de toi, à tes collègues membres du staff. Et aussi, bien entendu, à tes joueurs. C'est-à-dire de feindre d'être toujours dans ta bulle, d'être toujours prêt. Alors que tu doutes quand tu perds 3-4 matchs d'affilée avec tes coachs. Crois-moi, tu doutes.
Te mettre dans le travail, pardon Pascal, si tu te réfugies dans le boulot,
tu réfléchis pas parce que
t'es dans l'action.
Voilà.
Tu vois,
et puis aussi avoir de l'estime de soi, se dire que un jour remarchera encore.
Il faut s'aimer
et avoir foi en ce que tu. Oui, avoir foi en ce que tu
proposes.
Il faut
qu'on te dise aussi.
Ouais, justement, quand t'as fait ton passage où tu t'es remis en question et
les
que
gens
c'est.
Te, mais ce que disait tu fais plus Cédric.
Non, en fait, après tu te réfugies.
Il dit rien. Wow, oui,
ben justement, tu te réfugies dans le travail, tu travailles sur toi-même. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec mon préparateur mental. Et après, tu fais des choix. Tu fais des choix de carrière, des choix qui sont complètement radicaux. Moi, 2006, ça va pas. Je pète un plomb. Je suis prête à arrêter le vélo. Je n'en peux plus de ce milieu et des gens qui me dirigent. Je reste dans la même équipe. Par contre, je prends une grande décision. C'est maintenant, ça va être pour moi, pour ma gueule, et c'est mon job. Je crois qu'il y a une bascule envers le terminer la passion, maintenant c'est le job. Mais après, j'avais plus qu'un seul rapport avec les gens qui me dirigeaient. C'était plus lui qui me coachait, qui me disait tu vas être sélectionné. Je faisais le max pour y aller. Et c'était combien tu me donnes à la fin du
moi,
mois.
Moi, c'est la Coupe du Monde.
Ça, c'est moi, dur aussi.
Moi, la Coupe du Monde, tout le monde n'est pas capable.
On te fait basculer.
La Coupe du Monde 2011, tu vois, je suis plus invité, je suis plus rien. Et parce que je suis un peu excessif sur les à côté. Et je sais que c'est mon environnement.
Je suis un peu excessif sur les à côté.
Tiens, je sors, je marche.
Façon de dire, je fais la bringue.
Voilà.
Et tu y étais en 2011, Cédric.
Cédric,
tu y étais en 2011.
Ouais, mais
raconte-nous 2011.
En 2009, on rentre de la tournée en Nouvelle-Zélande, on joue les Bocs à Toulouse, je fais un match pitoyable, je sors de l'équipe de France et j'y reviens plus. C'est-à-dire que je commence à avoir d'un montant de jeu réduit au stade toulousain et c'est mon entourage parce que je disais la Coupe du Monde je veux la faire en Nouvelle-Zélande, le pays du rugby, et c'est mon entourage qui m'a dit mais tu fais plus d'efforts.
Tu t'as remis sur le rail, ouais.
Ouais, mais on m'a dit, mais très bien, alors vie de monastère pendant 6 mois, 7 mois. Alors on va encore.
Tu t'es remis au boulot.
Voilà, on va encore dire que je fais le canard, mais j'ai la chance d'avoir une épouse qui est la fille d'un sportif de haut niveau. Donc elle m'a envoyé ce que j'étais en train de faire.
Bien sûr.
Elle m'a dit, mais tu dis à tout le monde ce que tu veux
faire. Beau ce que tu dis, ça.
Ouais, je sais, je vais me faire brancher après, mais. Ouais, voilà, ça y est.
Vous êtes insupportable.
Ça a été travail, repart de zéro, refais-toi un physique, refais-toi. Et j'avoue, je vais me faire brancher encore. Mais YouTube, mais quand non. Tu tapes ton nom et que tu mais vois ce sûr, que tu étais capable sûr, de faire, tu dis sûr. Mais attends, pourquoi pas maintenant, pourquoi tu serais pas capable de le faire, pourquoi tu
non mais comment ça se passe, moi ça m'intéresse parce que franchement
mais comment ça se passe,
c'est dans ma vie d'aujourd'hui.
Non mais c'est quoi, il est 2h du matin, tu tapes Cédric Clément sur YouTube.
Non mais attends, je vais te dire, j'ai des périodes difficiles au niveau du boulot comme tout le monde, je suis pas un cas à part.
Encore aujourd'hui.
Ouais, mais,
non,
même,
mais encore aujourd'hui, moi, je m'en sers de l'image.
Mais je me dis, putain, mauvaise période et tout, t'arrives pas à dormir, mais t'as besoin de quelque chose qui t'apaise. Ta petite Madeleine de Proust, Yannia, ça va être le chocolat. Donc moi, c'est le chocolat et la vidéo. Mais je tape mon nom, je me fais brancher par mes potes, mais de dire, ah ouais, t'as fait ça, mais t'es pas une merde.
Bien sûr, bien sûr.
Les gars, on va continuer, on va poursuivre le vestiaire sur comment gérer la perte de confiance, parce que c'est fascinant de vous écouter. Et je pense que c'est aussi très intéressant pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans une carrière professionnelle, par exemple, comprendre un petit peu tout ça et les mécanismes pour s'en sortir. Juste, Eric Salio, important.
Parce que Cédric a envie de se livrer. 6-4 pour Arthur Hinnertèche. 6-4.
Face à Avachereau, la finale du Masters 1000. On revient dans quelques instants, on va poursuivre le vestiaire pour parler de ce sujet très intéressant, comment gérer la perte de confiance. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Cédric Aymans, Pascal Duprat. On est toujours dans le vestiaire, comment gérer la perte de confiance. Mais avant, on va s'intéresser quand même à cet événement tennis. La finale du Masters 1000 de Shanghai. Le français Arthur Hinnertèche face à son cousin Valentin Vacheron. Le français fait la course en tête, Eric Salio.
Oui, 1-7-0 pour Arthur Hinnertèche, 6-4. Il a suffi d'un break et donc il est à 1-7 d'être le 5e joueur français à remporter un Masters 1000 face à son cousin.
Bon, premier set parfait, Flo, pour Arthur Hinnertèche.
Ouais, le break assez tôt, qui le conforte dans son jeu, surtout que j'ai l'impression que ça l'a détendu. Et puis après, il sert incroyable. C'est le pourcentage de première balle qui passe et de points gagnés derrière. Donc, il a vraiment géré ce break d'avance. Après, Valentin, il y a eu des bonnes choses aussi. Il était pas loin à un moment. Il s'est retrouvé une fois à 15-30 sur le service d'Arthur. Il a fait deux fautes. Donc, il est pas si loin que ça. Il a déjà été un peu dos au mur dans ce tournoi. Donc, il va falloir que lui serve très, très bien. Et puis, au pire, tu tiens ta mise en jeu. Il y a un tie break à jouer avec beaucoup de tension. Donc, on n'y est pas encore, mais. Il n'est pas si loin, mais ce break bien géré, ce premier set bien géré par Arthur.
Et quand tu réussis un point et que tu es applaudi par Roger Federer derrière toi, ça te motive un peu quand même. On reste dans le vestiaire, les amis. On va y retourner. Comment gérer la perte de confiance, hein. Je rappelle qu'on parle de ce sujet parce que Warren Zaïre-Emery a été cette semaine très sincère sur ce qu'il traversait actuellement. Donc il disait, regardez des vidéos notamment de ce qu'il était avant. Vous avez partagé là-dessus. Flo, tu voulais rajouter un truc sur ce sujet.
Oui,
qui vous touche tous, hein, tous les sportifs de haut niveau.
J'ai un petit exemple. Lorsque je suis entre 150 et 200e mondial, je vais faire une tournée au Mexique de 3 semaines. Il y avait Joe Tsonga, d'ailleurs, on partageait la chambre ensemble. Il était entraîné par Vinogradsky à l'époque. Et au Mexique, rien ne va. Je me mets à cramper à la fin du second. Je perds en qualif d'un tournoi. Et Joe, lui, en altitude, avec le service qu'il avait, à 2000 d'altitude, lui, premier tour, il me dit je vais gagner le tournoi ici. Avec une grosse confiance en lui, comme il peut avoir et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il avance dans le tournoi et moi je prends 3 jours off. Il me fait mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes pas et tout. Je lui dis ouais, je suis limite de rentrer, j'en peux plus. Et donc lui, il gagne le tournoi. Et donc je lui dis écoute, moi j'ai une semaine pour me préparer. Je lui dis moi je vais gagner le tournoi la semaine d'après. Et je me suis remis au boulot en fait. Je me suis dit je suis à 2000 d'altitude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire du physique à fond. Vino me prend, Eric Vino me prend, il me fait une séance d'intermittent, truc sur le terrain. Et il me fait un programme pour la semaine d'après. Je me suis dit je vais tout mettre dans le physique. Ça me servira sûrement en Europe. Quand je reviendrai au niveau de la mer, j'aurai 8 poumons au moins. Et je me levais tôt pour aller bosser, pour avoir les terrains tout seul, pour jouer, parce que sinon tu partages ça à 4. Et je dis à Joe, je vais aller le gagner. Donc lui, il rigole un peu parce que je jouais tellement pas bien. Et il rentre en France et je suis tout seul sur ce tournoi. J'ai un copain qui reste. Et finalement, je jouais pas très bien, mais tu vois, je montrais rien. J'avais confiance en mon physique. Je passais un tour difficile, mais tu sais pas comment sont les autres en face. Peut-être qu'ils sont pas bien aussi ce jour-là. C'est là où on te dit que toi t'es pas bien, mais les autres peut-être ils ont mal dormi.
Alors que t'aurais pu être écrasé aussi par la surconfiance de son gars, par exemple.
Et lui qui me dit je vais gagner le tournoi, il met des branlées à tout le monde, il rentre. Et tu vois ce tournoi, un gros tournoi et challenger qui lance en fait ma carrière un peu après, puisqu'il me permet d'avoir wildcard à Roland et de passer des tours. J'ai réussi à le gagner. Et je suis rentré et j'étais fier de moi. Et tu vois, le fait de vouloir rentrer en France et finalement de rester, tu vois, ça s'est joué.
Parce que le physique, c'est le plus facile à retravailler parce que tu te réfugies là-dedans et tu cours. Après, c'est la partie psychologique qui est beaucoup plus compliquée. Et d'être à côté de quelqu'un qui brille, comme toi, tu l'as vécu, tu te dis pourquoi lui, moi aussi, je sais faire. Je peux aller le chercher. Ça peut t'écraser aussi.
Oui. Par un copain qui joue tellement bien.
Je suppose qu'en partageant la chambre, ils sont potes et de son gars.
À Toulouse, t'avais plein de stars. Jérôme, t'as été en équipe Quick Step, il y avait plein de stars également. Vous voyez autour de vous.
Oui, surtout que vous, vous êtes en concurrence.
Les entraînements, les matchs.
Il faut flinguer ta confiance. Quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous en commun, c'est l'ego. Quand t'es sportif de haut niveau, tu as l'ego qui correspond à ça et tu es fier de toi et tu as cela qui dépasse, que tu fasses partie d'un gros collectif, tu crois toujours que t'es le meilleur et heureusement. Et nous, dans le sport individuel, Flo, ce qui nous redonne la pêche et qui nous fait relancer la machine, c'est la gagne. C'est un peu différent dans un collectif où le collectif peut gagner, mais toi,
parce que tu peux être nul.
Toi, en vélo, tu gagnes et c'est reparti. Tu passes d'être une merde à gagner une course, quelle qu'elle soit.
Dans un sport co, tu
passer la ligne en vainqueur. Ça te relance.
Ouais, tu disons que dans un sport co, tu peux être moins bien et peux gagner.
Pascal, toi, l'ego, c'est un truc qui te marquait là dans la discussion.
Ouais, parce que en fait, l'ego, tous les sportifs ont un ego plus ou moins surdimensionné, mais il en faut parce que c'est pour ça que les critiques qui sont formulées tout à l'heure, Christophe parlait des réseaux, par exemple. Alors moi j'ai beaucoup de respect pour les gens quels qu'ils soient. C'est pas parce qu'ils sont pas sportifs de haut niveau que je vais pas les respecter. Mais cela dit, ils ont aucune, les gens, le commun des mortels n'a aucune mesure ou conscience de ce qu'il faut pour y arriver. Ne serait-ce que pour arriver à devenir footballeur professionnel. Mais si vous saviez le nombre d'années qu'il faut pour y arriver, il faut partir de chez toi, 14 ans, être déraciné, ne penser qu'à ça, mener aussi tes études, parce que bien souvent t'es obligé de le faire, autrement les centres de formation fort heureusement ne te prennent pas. Donc c'est un déracinement, c'est une compétition de tous les instants. Vous êtes en compétition à l'intérieur de l'entraînement. On parle de l'aspect visible, c'est une équipe sur le terrain quand vous êtes pro, 11 joueurs, des remplaçants. Mais avant cela, combien de personnes tu as dû éliminer, combien de concurrents à l'intérieur de ton club tu as dû terrasser pour y arriver. C'est un truc de fou. Et il faut avoir un ego d'enfer, autrement tu n'y arrives pas.
Oui, mais quand
l'ego, il te sert aussi quand tu es en grande difficulté.
Quand l'ego ne marche pas, du moins, on l'a dit, ça nous est tous arrivé, mais tu peux plonger dans des idées noires.
Ouais, mais justement.
Je dis noir, c'est de se dire, plus rien ne va, qu'est-ce que je fous là, je devrais arrêter, mais même aller au-delà, je ne vais pas prononcer le mot, mais tu peux.
tu tournes en rond et tu dis mais ouais, je sers à plus rien.
À rien.
Et toute cette partie qui entoure, je parle pas des proches, mais de ceux qui commandent cette période-là, je vais dire un mot qui est assez fort, qui ont peut-être du sang dans la bouche, parce que ils écrivent des insanités, ils savent pas ce qui se passe dans la tête du sportif à ce moment-là, et il peut y avoir des drames gravissimes, ça peut aller très loin. Je vous dis vraiment, hein, c'est chaud.
On a tous nos casseroles, nos blessures.
Ben ouais, mais c'est chaud quand t'es au fond et que tu
l'article qui t'a mordu. C'est là où
je parle de l'entourage proche qui est là pour t'aider. Alors ça peut être un psy, les parents, la femme, les enfants, et tu sais pourquoi tu restes.
Voir ta famille malheureuse parce que t'es pas bien.
Exactement, parce que eux ramassent moi. Quand tout est basé sur le sportif, la réussite, c'est génial, mais quand ça s'écroule, c'est
bien sûr.
Tu es responsable
tout est construit sur ça aussi.
Tu es responsable du mal-être de tes proches.
Dans notre environnement à nous, sportifs de haut niveau, on arrive tous des familles. En général, le sport, tu finis par être le centre d'intérêt de tout ça. Et quand toi, tu vas mal, tout le monde va mal.
Quand tes enfants rentrent de l'école en leur disant mais ton père, il est complètement nul.
Mais c'est ça.
Moi, avoir vécu.
Ouais, il devrait mettre des petites roulettes à l'arrière, quoi.
Pour avoir vécu le lynchage plus après carrière, puisque c'était quand j'étais manager et vous connaissez l'histoire, c'est à ce moment-là où tu as besoin de cet ego. Moi, mes filles avaient honte de rentrer à la maison. Là, tu vas chercher ta force. Ta force, c'est celle que tu avais quand tu étais au sommet. C'est si je sombre, c'est encore plus.
Jérôme, donc, j'ai besoin de cette force-là.
Parce que tu as l'ego.
Mais ça devient de la haine.
C'est de la haine. Honnêtement, c'est de la haine. Quand tu te lèves le matin et que tu t'es fait attaquer et que tu n'arrives pas à retrouver. Mais t'as une haine qui est limite à la proche de la violence.
Cette haine, tu la dois au fait que t'es sportif de haut niveau aussi. C'est pour ça qu'on se relève. C'est pour ça que beaucoup dans le monde de l'entreprise vont chercher des sportifs parce que nous avons cette capacité à nous relever de semaine en semaine, tout le temps. Tu peux faire un très bon match, le match suivant être nul, mais on retourne toujours dans l'arène. On a cette capacité là.
La qualité première de qu'on a toutes, c'est aussi la remise en question permanente.
Que tu n'as pas forcément
dans les domaines.
Aussi un mental qui est au-dessus de la norme habituelle, qui permet de dépasser
l'estime de soi.
C'est pour ça qu'on aime lutter contre des vaillants comme toi, Christophe.
Il faut pas la confondre avec la grosse tête, l'estime de soi, parce que souvent tu te dis c'est pas parce que j'ai une énorme confiance en moi que le mec il a le goulard. Mais tu vois, moi j'ai battu des membres du top 10, j'étais 36, mais qu'est-ce qui m'a manqué aussi pour aller peut-être parfois faire des meilleurs trucs sur des plus gros tournois? Ben c'est avoir encore une plus grosse estime en se disant mais ces gars-là en fait il faut pas les regarder jouer, tu vois, les meilleurs. À un moment donné, faut être sûr la plupart des gars tu peux leur marcher dessus, quoi, que tu peux les tordre. Pas spectateur.
Moi j'ai eu la grosse tête, vraiment un boulard habituel.
Moi j'avais du mal avec
un truc monstrueux.
Comment gérer la perte de confiance?
J'étais à Brive, j'avais peut-être des fois je me suis fait recadrer, mais après on m'a expliqué que la grosse tête, c'est pas bien, mais la confiance en toi, elle est primordiale.
C'est important.
Et je disais toujours, mais arrêtez.
À la limite, elle est
difficile. Alors, je lisais pas la presse, je regardais pas les réseaux, il y en avait beaucoup moins déjà, mais moi, je répétais toujours, si je m'aime pas, qui va m'aimer, quoi. Moi, j'ai besoin de m'aimer. J'ai besoin de me retrouver élégant quand je joue au golf. Je suis bien habillé parce que physiquement c'est un peu plus dur. J'ai besoin de d'avoir cette confiance, tu vois, de faire un truc dans la journée qui me rende fier de moi, tu vois, tout le temps. Ouais.
C'est encore aujourd'hui.
Mais remets-toi au golf, si t'as de confiance.
Encore aujourd'hui, j'ai 63 ans, j'ai toujours la passion du foot. Ça fait deux ans que je n'entraîne pas. J'ai eu des trucs, merci à eux, et j'ai refusé, mais j'entraîne pas depuis deux ans. Mais cela dit, je m'astreins tous les jours à un rituel, c'est que je prends soin de mon corps parce que j'ai envie d'être prêt, j'ai ça en moi. Voilà, il y a une période dans ma carrière où j'avais pris du poids. Je me regardais quand je voyais dans les canards ma ganache, et on a dit un petit cochon avec du persil dans les oreilles, tu vois, tellement j'étais gras. Donc j'ai dit faut que j'arrête de bouffer, faut que je sois représentatif. Donc j'ai toujours ça, mais ça je le dois au sport de haut niveau, cette mentalité là, cette attitude là, cette fierté là. Je le dois à mon parcours de sportif, et ça m'aide à avoir toujours confiance en moi et à me relever. Voilà, donc se relever, c'est le plus difficile en fait en sport de haut niveau. Et c'est d'être capable de se relever.
Et avec tous vos discours, on comprend un peu mieux comment on peut faire pour se relever face à une perte de confiance. Tiens, Julien sur WhatsApp qui nous dit avec un tel discours et une telle mentalité, comment se fait-il que Pascal ne soit pas approché par un bon club de Ligue 1 ? Eh oui, Pascal, évidemment, on
avec
toi. Il
faut qu'il soit président, le cher auditeur.
On ferme la porte du vestiaire. C'était fascinant de vous écouter. Juste un petit mot rapidement sur le tennis. Eric Salio, la finale Rinderknecht Vacherot.
La cousinade 6-4 Rinderknecht, deux jeux partout dans le deuxième set.
Ça sert, hein. Ça sert pour l'instant.
Ça sert bien.
Et ça sert bien.
Et on va tout de suite accueillir Véronique au 32-16 qui nous appelle. Véronique.
RMC présente
les poupées RMC.
Qui a été tiré au sort pour les poupées RMC. Félicitations Véronique d'avoir été tirée au sort.
Bonjour RMC.
Bonjour. Alors Véronique.
Ravie de vous avoir au téléphone.
Ah ben nous on est ravis de vous avoir et merci de nous écouter. Alors je vous explique, les poupées RMC, c'est un jeu où vous pouvez gagner jusqu'à 5000 euros. Je vous explique. J'ai devant moi des poupées, c'est comme des poupées russes, hein, vous le savez. Dans chaque poupée se cache un cadeau, donc elles sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a un iPhone, une console de jeu, un voyage jusqu'à 5000 euros. Vous aurez 45 secondes chrono pour ouvrir un maximum de poupées. Si un cadeau vous plaît, vous me dites on arrête, si ça ne vous plaît pas on continue jusqu'à la poupée, attention vous avez 45 secondes, c'est ok pour vous ?
C'est ok, merci.
Et vous me dites top chrono et on y va, et j'ouvre les poupées.
Top chrono.
Allez c'est parti, pour la première poupée, attention à l'intérieur il y a 250 euros, vous continuez ou vous arrêtez ?
Continue.
On continue, la deuxième poupée, attention je l'ouvre, le petit papier à l'intérieur, il y a 500 euros, vous continuez, vous arrêtez Véronique.
Je continue.
Vous continuez, vous êtes joueuse, la troisième poupée, je l'ouvre à l'intérieur, il y a 1000 euros Véronique, vous continuez, vous arrêtez.
J'arrête.
Vous arrêtez.
Bravo.
Bravo. Voilà, les risques mesurés. Félicitations, Véronique. 1000 euros.
Il y avait quoi après
Voilà.
Non,
elle cumule les trois.
Vous adore.
Bah, mais nous aussi, on vous adore, Véronique.
Les trois.
Non, mais non, juste la dernière poupée. La dernière poupée. 1000 euros, Véronique.
150, c'était mieux que 1000 quand même.
Félicitations. Bah, merci à vous d'avoir participé aux poupées RMC. C'est votre nouveau jeu. Ah, je sens qu'il vous plaît ce jeu, les poupées RMC. Merci, Véronique. Bonne journée à vous. Peut-être, mais après on va continuer. Hein. Peut-être après il y avait un livre de Pascal Duprat, des compotes de Cédric Emmons, une équipe de.
C'est passé.
Une équipe.
Et un match de ping-pong contre Christophe.
Un match de ping-pong. Ah, on adore. Et bon, dans quelques instants, on va continuer de jouer puisqu'il y a les jeux du sport qui arrivent. Là, c'est vous qui allez tous rentrer dans.
Mais on peut gagner les mêmes trucs pour les jeux du sport pour ceux qui participent ou non ?
Non, on ne peut pas gagner. Ce qu'on va faire gagner, c'est un PC Altic de la marque française installée à Nantes. On fait gagner ça aux auditeurs qui participent avec vous dans quelques instants. Donc vous avez une grosse responsabilité. On revient dans quelques instants et la finale du tennis également. Rinderknecht toujours en commande. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, dernière ligne droite avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Cédric Emmons et Jérôme Pinault. D'abord un point sur la finale du Masters 1000 à Shanghai entre le français Arthur Rinderknecht face à son cousin monégasque Valentin Vacherot. Le français fait toujours la course en tête.
Oui, 1-7-0 pour Arthur Rinderknecht, 6-4, 3-2 Vacherot dans le deuxième, mais balle de 3-3 sur le service du Breton qui sert remarquablement depuis le début de cette finale.
Flo, ouais.
C'est là que ça se joue. Il y a eu ce jeu de Vacherot un peu loupé où il se fait breaker dans le premier set, mais derrière en fait il tient bien sa mise en jeu. Début du second aussi solide, et Arthur n'a quasiment pas perdu de points sur sa mise en jeu. Hein. Il a perdu 2 points sur la seconde et 6 points sur la première. C'est peu quand même en 1-7.5. Mais Vacherot est très solide. 3-3, donc ce serait pas illogique d'avoir un petit tie break dans ce set déjà.
3-3 dans le deuxième. Effectivement, on continue de suivre cette finale avec vous. Je vous rappelle, 11 ans qu'un Français n'a pas gagné un Master 1000 depuis Joe Wilfried Tsonga. C'était à Toronto. Allez, tout de suite les amis, on joue avec les GG.
RMC, les jeux du sport.
Et là, ça devient très sérieux. Je vous rappelle le principe. En même temps, on pourrait peut-être faire du 3 contre 3 aujourd'hui. 2 contre 2, vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Cessieux Duprat.
Oui, c'est bien ça.
Et Pinault, Emmons. Je vais rajouter avec Cessieux Duprat, Serra. et avec immense Pinot Sagnio.
C'est quoi, c'est comme le Kikadi ou
c'est ça? Alors on accueille deux auditeurs, Eric et Stéphane. Bonjour Eric et Stéphane.
Bonjour.
Eric, c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse choisir ton équipe avec l'équipe Cessieux Duprat ou immense Pinot.
Duprat,
voilà. Eric, avec les
forcez pas trop les mecs.
Avec ses yeux Duprat, Serra et donc Stéphane.
On a la pression. Ouais.
Allez les amis, question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Une seule réponse. Dès que j'entends la bonne réponse, c'est bon. Tadej Pogacar a remporté un 10e monument hier. Combien on a gagné, Eddy Merckx?
19.
Jérôme Pinot.
Oh. Yes. Ah non. Parce qu'en plus, il faut aller vite.
Jérôme Pinot. Il faut aller vite, ça. Oui, oui, bien sûr.
Merci Jérôme, on a au moins un point.
Question à une seule réponse. Qui était le tenant du titre? Qui est le tenant du titre du Masters 1000 de Shanghai?
Sinner.
Serra.
Serra.
Bien.
Avant Eric.
Bravo, Eric.
Eric Salio vient de me dire que je suis injouable. A priori, là, sur la vitesse.
Un partout. Question auditeur. Eric et Stéphane, c'est pour vous. Donnez votre réponse et votre prénom derrière. Comme ça, on comprend qui a donné la réponse. Ok pour vous?
Oui, ok.
Contre qui jouent les Bleus du foot demain soir?
Islande, Stéphane.
C'est le premier, il y a eu un... Non.
Islande, Stéphane. Moi, j'ai entendu Stéphane, en tout cas. Il fallait donner son prénom. Ouais. Donc, le point est pour Stéphane. L'équipe Émance Pinot.
J'ai donné la consigne.
Qui est le leader du top 14 ce matin?
Je déteste cette mauvaise foi, s'il vous plaît, les GG, 2-2 pour l'instant.
Avant Arthur Rinderknecht, qui était le dernier français en finale de la Masters 1000.
Oh merde!
C'est malheureux, il a.
Humbert. C'était question à une seule réponse.
Ouais, voilà, raté.
Donc c'est pas bon.
T'as pas écouté la fin de la question.
Hugo Humbert, Jérôme Pinot. Eh oui, bien sûr.
Je viens de le dire là.
Wow,
travail d'équipe.
Il faut réfléchir, les gars.
Oui, mais allez, 4-2.
Oui, parce qu'il y a le droit qu'il y ait une réponse.
Non, ça fait 3-2.
Il fallait donner 3-2 pour l'équipe.
Ça s'appelle faire diversion. Bravo,
allez, 4-2, c'est parti. Attention, attention, parce qu'on n'entend rien. Vous êtes trop nombreux sur la table. Question auditeur, c'est pour vous, Eric et Stéphane. Je vous rappelle de
les prénoms. Allez, Stéphane, elle te loupe pas.
Qui a remplacé Konaté chez les Bleus?
Allez,
Eric. Papa,
Stéphane.
Ouais, Stéphane.
Oui. Stéphane, bien sûr.
Eric, allez, oh.
Eric, continue à.
4-2 pour l'équipe
et dégommer.
Non, mais attends, il faut voir les auditeurs.
On rappelle que Pascal vient de nous faire à la vue sur la
question
du coup.
Question élimination. Oh là là, je vous rappelle, chacun répond à tour de rôle.
Ah, ça, c'est dur.
Une erreur et vous êtes éliminé.
Ça dépend quel thème.
Pouvez-vous me citer, s'il vous plaît, les disciplines des Jeux d'hiver de Milan-Cortina? Il y en a 15 dans les 7 grands sports. On commence par Pascal Duprat.
Curling.
Curling, c'est bon. Jérôme Pinot.
Hockey sur glace.
Hockey sur glace, c'est bon. Florent Serra.
Bobsleigh.
Bobsleigh, bien sûr, c'est bon. Cédric Emmons.
Snowboard,
c'est bon. Christophe Cessieux.
Le skeleton.
Le skeleton, c'est bon. Eric Salio.
Bah, le ski alpin.
Le ski alpin, bien sûr. Pascal Duprat.
Biathlon.
Biathlon, bien sûr. Martin Foucault, vous avez 3 secondes pour répondre maintenant. Jérôme Pinot. 1.
Le ski de fond.
2. C'est bon. Ouais. Florent Serra. 1.
Luge.
2. 3. La luge, ça passe, bien sûr. Cédric Emmons.
Patineur artistique,
vous êtes bon. Christophe Cessieux.
Saut à ski.
Vous allez aller au bout, en fait. Eric Salio. 1.
Le short track.
2. Le short track, bien sûr que ça passe. Pascal Duprat.
Saut à ski.
Le saut à ski.
Non, j'ai dit, j'ai déjà donné.
Jérôme Pinot.
Le combiné nordique.
Combiné nordique, bien sûr, c'est bon. On est à qui? Florent Serra. 1. 2. 3. Terminé, Cédric Emmons.
Patinage de vitesse.
Patinage de vitesse, bien sûr, ça passe.
Short track et patinage de vitesse,
c'est pas pareil.
Je vais éviter de le dire.
Christophe Essieux,
la danse sur glace.
Il y en a encore.
La danse sur glace, ben non, c'est du
patinage.
Il y a eu des disciplines, le couple, la danse en couple, ça va.
Non, mais pas du tout. La danse sur glace.
C'est comme tu dis, le ski alpin, il y a le super G, il y a le slalom.
Artistique, si c'est aux danseurs sur glace, c'est les patineurs.
Éric Salio.
Pas du tout. Non, je refuse. Je quitte
le judo.
Le judo, c'est pas bon, éliminé.
Mais si, c'est son programme.
Le ski acrobatique.
Le ski acrobatique, allez, c'est bon, c'est le dernier, c'est gagné. Par Jérôme Pinault.
Et donc c'est gagné pour l'équipe, moi j'ai pas été éliminé
5-2, ouais, mais vous êtes dans la même équipe,
les gars. Excuse-moi,
bien sûr,
côté égoïste,
c'est gagné. Félicitations Stéphane, tu remportes un ordinateur, un PC portable de la marque Altic. Félicitations.
Bravo, Stéphane. On les a
jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Un truc à redevenir une habitude, c'est Christophe Cessieux après les jeux qui regarde son téléphone.
Ouais. Bah, attendez,
c'est bon ou pas?
Si Stéphane, il a un problème avec l'ordinateur Altic, il me le donne.
Il nous manquait quoi alors?
Avant de ceux qui. Non, c'est bon, ça, c'était la dernière.
La danse sur glace est une discipline du patinage artistique. Christophe Arès,
exactement. Exactement. Félicitations, en tout cas, les juges du sport, vous connaissez bien le sport.
C'est ma première victoire.
C'est vrai.
Je suis fier.
À un jeu à la Nantaise, finalement.
Exactement.
Éric Salio, Florent Serra, avant de se quitter, la finale du Masters 1000 entre Rinderknecht et Vacheron.
6-4 Rinderknecht, et on est dans le money time de la deuxième manche. 4 jeux à 3 pour Valentin Vacheron. Il n'y a pas de break, hein. Flo, c'est toujours, c'est français qui est au service. Il mène 35. Donc, le tie break, peut-être qu'il va survenir dans quelques minutes.
Ouais, il avance tranquillement. Il y a juste eu tout à l'heure à 40 une petite volée où Arthur aurait pu se procurer la première balle de break dans ce deuxième set. Et pour l'instant, voilà, ils sont tous les deux, encore une fois, très solides sur leur mise en jeu avec un Valentin Vacheron qui se lâche un petit peu plus. On a vu commencer à claquer un petit peu plus de coups gagnants que dans la première manche, là. Donc, c'est intéressant ce qu'il fait.
Intéressant ce que fait effectivement Arthur Rinderknecht face à son cousin Valentin Vacheron. On continue de suivre ça avec vous, Éric Salio et Florent Serra. On continue d'observer également la tête de Christophe Cessieux, dépité après sa défaite dans les jeux du sport. Et on remercie Jérôme Pinault, on remercie Pascal Duprat et Cédric Clément. On se retrouve le week-end prochain dans les grandes gueules du sport. Tout de suite, les paris RMC avec toute la team qui arrive. Restez avec nous sur RMC. La finale du tennis continue également. À tout de suite.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.